citoyen, la jeunesse est l'avenir de l'Europe.
Et c'est au sujet de la politique extérieure environnementale de l'Union européenne que nous avons décidé d'échanger. Et oui, car si l'environnement fait partie des sujets clés de l'Union européenne dans sa stratégie interne, avec notamment son récent pacte vert ou Green Deal, celui-ci n'en reste pas moins une préoccupation mondiale dont les problèmes surviennent à peu près partout dans le monde, à travers les catastrophes naturelles, les hausses des températures, les alertes de la société civile ou encore des projets écologiques en faveur d'un développement durable. Cela pousse l'Union européenne à faire de l'environnement un élément central de sa politique extérieure. Mais avec quelle efficacité? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Récemment, nous avons donc eu justement la COP26, le dernier sommet environnemental pour lequel l'Union européenne était participante. Ces sommets, tels que la COP21, la COP26, sont souvent critiqués car les objectifs non contraignants, en fait, ne sont pas atteints par les pays. Tout d'abord parce que c'est des objectifs qui, justement, ne sont pas obligatoires et car c'est des objectifs assez ambitieux. Mais quelle autre alternative, finalement, à ces types de rencontres, vous verriez afin que les engagements des pays se concrétisent mieux ou plus ?
Bah justement, l'Union européenne peut travailler sur sa politique commerciale pour influencer les autres pays. Alors, ce sera par des accords bilatéraux ou à travers l'union douanière. Elle va pouvoir mettre en place une sorte de protectionnisme environnemental pour protéger certains produits.
Alors là, ce que vous me dites, du coup, c'est quelque chose qui est déjà en place ou que vous verriez, vous, à mettre en place?
C'est plutôt quelque chose qu'on voudrait bien que ça soit mis en place parce que c'est le contraire qui est en place, en fait. L'Union européenne essaie de promouvoir le libre-échange au niveau planétaire. Elle essaie d'établir des accords avec d'autres pays, avec d'autres blocs, par exemple. Récemment, il a été beaucoup discuté l'accord Union européenne-Mercosur, c'est-à-dire un accord avec des pays d'Amérique du Sud. Et c'est exactement le contraire. C'est d'importer encore plus de produits de pays tiers et pas de promouvoir un certain protectionnisme commercial.
Oui, donc finalement, cet accord de libre-échange serait pas vraiment gagnant pour aucun des partis et quelque chose de plus protectionniste serait mieux à mettre en place.
Oui, exactement, parce que ça serait gagnant peut-être pour un petit nombre de personnes qui pourraient beaucoup profiter avec ces accords, que ce soit pour la population européenne qui consomme des produits qui viennent de très loin alors qu'elle pourrait consommer des produits qui viennent du marché le marché intérieur. C'est pas bénéfique pour les Européens, c'est pas bénéfique pour les gens d'Amérique du Sud qui entrent dans un système de presque exploitation parce que ça va pousser le développement d'une production qui est très peu rentable économiquement et ça va le faire encore plus dépendant de pays du Nord global, comme on dit dans le terme écologique, c'est-à-dire qu'ils vont être encore plus dépendants, ils vont pas développer d'autres activités économiques qui seraient beaucoup plus rentables.
Du coup, est-ce que vous voyez d'autres manières d'agir de la part de l'Union européenne au niveau de sa politique extérieure pour satisfaire un peu les objectifs environnementaux qu'elle a mis en place et même que les Nations unies ont pu mettre en place?
Ce qu'il faut faire, c'est aussi de soutenir des projets au niveau des pays en voie de développement, projets qui permettent de développer l'économie de ces pays, d'augmenter leur niveau de revenus, mais à travers des technologies soutenable, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un transfert de savoir-faire et un transfert technologique parce que c'est ça qu'on a en Europe. On a des technologies qui ne sont pas encore implémentées dans nos pays en voie de développement et on pourrait utiliser ces technologies de pointe qui permettent de produire de l'énergie d'une façon soutenable et de produire des aliments dans des pays en développement. Déjà, l'Union européenne, c'est le pays dans le bloc qui finance le plus de projets dans des pays en voie de développement. Il n'y a aucun autre ensemble de pays qui finance autant. Mais c'est utiliser ce financement exactement pour promouvoir des initiatives, de projets ailleurs, que en même temps augmente le niveau de revenus de certains pays pour qu'il y ait une égalité entre les pays de l'Union européenne et les pays en voie de développement pour qu'on puisse contribuer pour une augmentation de revenus pour réduire les inégalités, mais en même temps que cette augmentation de revenus soit accompagnée de l'implémentation de technologies soutenables. Voilà.
Donc je ne sais pas si vous connaissez le programme Horizon Union Européenne, c'est un programme cadre de l'Union Européenne qui permet justement de financer l'innovation et la recherche, qui aujourd'hui accorde un certain pourcentage à justement la transition écologique. Vous diriez qu'il faudrait que ça, finalement, qu'elle aille plus loin, qu'elle augmente ce financement et qu'elle fasse des projets encore plus concrets également pour pour aider les pays en développement à passer dans un modèle de développement durable?
Oui, et il faut financer la recherche, parce qu'on sait maintenant qu'on a besoin de technologies qu'on n'a pas encore pour réduire notre empreinte carbonique et pour réduire les émissions. Du coup, il faut financer le max, mais ce n'est pas que financer, c'est transférer ces technologies qui permet en même temps de développer ces pays, de créer de la richesse, et ça les intéresse, parce qu'ils ont des niveaux de revenus très bas. Et en même temps, faire que ces pays sautent l'étape industrielle, c'est-à-dire qu'ils vont se développer sans forcément passer par une industrialisation très lourde et que produit énormément d'émissions.
D'accord, oui, on n'est pas que dans le financement, mais dans la transmission d'expertise et de savoir, en fait, c'est ça.
Oui, c'est ça.
On voit qu'elle essaye de donner un peu une sorte d'exemple, en fait. Et est-ce que vous pensez qu'il y aurait finalement des choses à faire pour que cette influence soit plus soit augmentée, finalement, auprès des Nations Unies, des organisations internationales, des autres continents?
Après, ça reste dans la même idée de contribuer au développement des pays en développement, pour qu'ils évitent de repasser par une croissance carbonée et qu'ils aient une croissance verte dès le départ pour que justement l'environnement soit protégé.
D'accord, oui. Donc finalement, ces actions et ces projets permettraient vraiment de servir de modèle de la part de l'Union européenne et l'influence se ferait par elle-même auprès des autres acteurs mondiaux.
Pourquoi vouloir avoir une vision presque paternaliste envers ces pays-là quand au sein de l'Union européenne, on a de grandes diversités, de grandes disparités et que au sein de l'Union européenne, on n'arrive pas à mettre en place, on n'arrive pas à faire appliquer les normes, hein, que ce soit au niveau de la PAC et au niveau de quoi que ce soit. Pourquoi vouloir imposer justement un modèle de croissance verte quand nous-mêmes, on continue à avoir une croissance extensive? Finalement, on rentre dans le problème du solutionnisme technologique, c'est-à-dire de vouloir combattre les excès de la croissance économique et du capitalisme par une nouvelle croissance économique qui serait verte, mais qui pour autant serait toujours capitaliste, en fait. Pourquoi ne pas repenser justement à les modes de production, de fonctionnement, les circuits courts, et de vouloir exporter une croissance verte que nous-mêmes, on n'arrive pas à appliquer?
La fameuse question de la croissance verte ou la décroissance.
Voilà, c'est ça. C'est un débat qui a été posé des années 70 par André Gortz, et on y est encore, quoi.
Donc tu penses qu'on ne peut empêcher ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas prôner auprès de ces pays une croissance, mais une croissance modérée, qui ne serait pas la croissance telle que nous, on l'a connue, lorsqu'on avait un peu moins conscience de ces enjeux et ces problématiques?
Je pense que ça dépend des régions, parce qu'il y a déjà des populations qui protègent leur environnement. Ce n'est pas nous qui arrivent avec nos valeurs écologiques, ces valeurs existent déjà. Par exemple, si on va dans certaines parties de la forêt amazonique au Brésil, on trouve des peuples indigènes, ils ont déjà ces valeurs, ils protègent déjà l'environnement, ouais, ce n'est pas nouveau pour eux. Du coup, ça dépend clairement de contexte, mais ce n'est pas forcément nous qu'on va l'éduquer. Peut-être qu'on a plus à apprendre avec eux que nous à les enseigner.
Quelle forme d'action de la part de l'Union européenne également serait plus efficace pour soutenir ou favoriser la mise en place des actions dans le domaine environnemental extérieur? Au-delà des aides financières, la création de structures dans les pays, est-ce que pour vous, donc, cette transmission de technologies, de savoir, passerait aussi par plus ou moins la création de structures matérielles dans les pays pour mettre en place des programmes ou des nouvelles énergies, par exemple l'énergie solaire, etc.
J'ai lancé tout à l'heure la notion de décroissance, mais c'était simplement pour amener ça dans le débat, parce qu'il faut penser ces choses, hein, et c'est pensé depuis les années 70. Mais également, je pense que l'écologie et la croissance n'est absolument pas exclusif. Et d'ailleurs, on a de nombreux économistes qui ont montré que c'était absolument soutenable, notamment les rapports publiés par les économistes atterrés. Il y a aussi une enquête publiée par Negawatt en 2011 qui propose de bâtir, hein, justement une société autour de deux, trois piliers, hein, la sobriété, l'efficacité et l'énergie renouvelable. Et ils ont calculé, hein, les potentiels retombées, notamment en termes d'emploi. Donc ça créerait, hein, sous 4 ans 240 000 emplois et sous 20 ans 630 000 emplois supplémentaires qu'on additionnerait à ces 240 000, ce qui sera encore accru, hein, si le temps de travail venait à baisser. Et d'ailleurs, tout ça, c'est des questions qu'on pourrait lancer, parce que c'est des questions de société et c'est des questions qui peuvent nous amener justement à repenser notamment le travail, travailler peut-être moins pour travailler mieux, et également toutes ces notions de télétravail. Donc indépendamment des coûts psychologiques et des coûts humains, on a vu que ça avait de réels effets positifs sur l'environnement, et c'est peut-être un mode de société aussi à repenser. Mais bref, tout ça pour dire qu'une croissance verte est possible. Après, est-ce qu'elle est souhaitable par l'Union européenne et par les dirigeants et par les lobbyistes? Ça, c'est encore une autre question.
Alors, au niveau du coup d'exemples un peu plus concrets, pour ma part, j'ai noté quelques exemples de choses qui pouvaient être mises en place. Donc, je vous parlais de l'énergie solaire. Les énergies solaires, en fait, c'est le soleil quelque chose qui est présent dans les pays chauds et finalement qui est la source d'énergie la moins exploitée dans ces pays. Est-ce que on ne pourrait pas essayer de lancer certaines idées à ce propos, telles que des coopératives gérant des panneaux solaires? Est-ce que l'Union européenne, est-ce que c'est son rôle d'avoir affaire là-dedans? Ou est-ce que d'autres choses un peu plus innovantes pour intensifier la politique extérieure de l'Union européenne pourraient être mises en place? Là, je parle de l'énergie solaire, mais sur d'autres énergies renouvelables, est-ce qu'on peut faire quelque chose?
Alors déjà, l'Union européenne, en ce qui concerne l'énergie solaire, se débrouille bien, puisque en juin et juillet 2021, les pays de l'Union européenne ont produit un dixième de l'électricité européenne grâce aux panneaux solaires. Les Pays-Bas, par exemple, l'Allemagne et l'Espagne ont réalisé un record en ce qui concerne la production d'énergie. C'est vrai que ça ne suffit pas et il faudrait trouver d'autres moyens pour éviter d'utiliser les énergies fossiles qui polluent vachement.
Après, au niveau de ce modèle, justement, ça peut être bien de participer à sa propagation en discutant avec ces pays, mais pas en l'imposant. Parce que, justement, l'Union européenne ne doit pas avoir une attitude paternaliste, mais doit discuter. Et en montrant les avantages, en soi, ces pays les voient certainement déjà, mais elles peuvent participer à leur financement et, justement, aller dans un cercle bénéfique pour la planète.
Un autre exemple de politique qui peut être intéressant, c'est la politique de recyclage. Est-ce que vous pensez que, en fait, l'Union européenne pourrait encore améliorer cela et comment? En Union européenne, on a donc pas mal de politiques de recyclage, mais il y a également un paradoxe qui est qu'on exporte des déchets dans d'autres continents. C'est un peu la fameuse problématique des déchetteries à ciel ouvert. On peut trouver en Afrique, en Amérique latine. Il y en a quelques-unes en Europe, mais moins tout de même. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ça?
Par exemple, pour en citer une, la plus grande sur le continent européen, c'est le site de Vinča, donc au sud de Belgrade, en Serbie. Pour donner quelques chiffres, chaque jour, 600 camions de déchets arrivent. Donc ça représente 1500 tonnes d'ordures ménagères et 3000 tonnes de déchets de construction. Sa surface s'étend sur l'équivalent de 185 terrains de football, donc c'est quand même énorme. Mais la décharge manque de place pour accueillir tous les déchets qui sont livrés chaque jour. Et l'Union européenne a essayé de pallier ce problème de décharge à ciel ouvert. Donc les travaux ont commencé en octobre 2019 et prévoient la construction d'un site d'enfouissement. Donc ce serait un centre de valorisation énergétique. Mais après, c'est vrai que c'est très compliqué à mettre en place.
Une solution intéressante aussi pour que les États prennent aussi davantage conscience du problème de la gestion des déchets, ce serait d'internaliser cette gestion à l'Union européenne pour que, avec ces déchets sur le dos, ils se rendent davantage compte et mettent en place des politiques de réduction qui, je pense, ça les forcerait vraiment à agir. Favoriserait peut-être davantage l'utilisation du verre, de pousser les citoyens à utiliser, par exemple, le verre, qui sont réutilisables et qui, diminuer les déchets.
Est-ce que donc vous pensez également qu'on pourrait inventer des collaborations donc plus intensifiées entre les pays, comme par exemple des choses qui peuvent être portées en interne, que l'on pourrait décliner en externe, mais qui seraient, par rapport à notre conversation d'avant, donc plus dans la collaboration et l'échange, par exemple donc les services civiques. Est-ce que le corps européen de solidarité, le volontariat en Europe, est-ce que cela pourrait être décliné par exemple au niveau international, mais dans le cadre du domaine environnemental, donc ce qui serait des sortes de volontariat dédié à l'environnement qui pourrait aller du sens des personnes, des Européens en fait partant dans d'autres continents, ce qui les sensibiliserait dans un premier temps, ou à l'inverse, des personnes extérieures à l'Union européenne venant en Union européenne également, faire des missions environnementales.
Au niveau de corps européen de solidarité, moi-même j'étais en service civique européen à un moment. Et j'ai déjà au niveau de l'Union européenne, il y a déjà beaucoup de projets où on a de services civiques européens, de membres de corps européen de solidarité qui travaillent dans des projets écologiques. Mais oui, ça pourrait être intéressant d'exporter ça, exporter au-delà de l'Union européenne, parce qu'il y a des volontaires qui viennent de Turquie, d'Ukraine, de Russie aussi. Mais aussi, ça serait intéressant de créer des échanges avec des autres pays du monde. Mais il faut quand même voir que ce n'est pas si simple, parce que déjà, dans l'Union européenne, c'est un projet qui est très bien mené, mais il faut des structures au niveau du pays d'envoi, du pays d'accueil. et parfois de ce retour intermédiaire. Du coup, c'est très intéressant à mettre en place, mais ça a des coûts considérables. Il faut établir un réseau ailleurs et ça prend du temps. Mais oui, ça pourrait avoir plein d'avantages. Ça pourrait sensibiliser les Européens pour ce qui se passe ailleurs. Et peut-être s'ils travaillent dans des projets au niveau écologique, c'est quoi les solutions qui sont mises en place ailleurs? Comme ça, ça pourrait faciliter les échanges.
Envisager des projets comme ça pose aussi des questions au niveau de quel modèle environnemental on veut, parce que envoyer des jeunes Européens à l'étranger, en soi, c'est prendre l'avion, favoriser ce type de déplacement et donc la dépense de kérosène. Donc ça pose aussi cette question de quel type de projet environnemental l'Union Européenne a. Et j'ai pas vraiment la réponse.
Parce que oui, c'est vrai que parfois ça favorise qu'une petite classe haute au niveau européen, ça favorise déjà un certain profil de personnes, c'est pas forcément quelque chose de très démocratisé. Mais après, je sais que par exemple, le projet de corps européen de solidarité qui sont à court terme, parce qu'il y a deux types de projets, là, le projet à long terme et le projet à court terme. Le projet à court terme, c'est jusqu'à 2 mois, alors que le projet à long terme, c'est entre 2 mois et 12 mois. Le projet à court terme, ils sont... pour pouvoir participer à un projet à court terme, il faut être considéré comme quelqu'un dans une position, dans un contexte défavorisé. C'est pas tout le monde qui peut y aller. Après, pas toutes les associations qui participent font respecter les critères, mais il y a quand même des associations qui prennent que de jeunes qui sont en situation défavorisée et c'est eux qui ont l'opportunité de partir à l'étranger. Du coup, ça peut être fait. Il faut sensibiliser les associations qui sont responsables par ces échanges, mais il y a moyen de le faire.
Au niveau justement de la communication, des possibilités environnementales pour les jeunes, par exemple en Union européenne, telles que le Corps européen de solidarité, avec des missions qui parfois sont en faveur de l'environnement. Donc au niveau de cette communication, de cette sensibilisation, est-ce que vous trouvez que c'est assez communiqué, assez démocratisé auprès de tous les publics, la communication de l'Union européenne en matière d'environnement ou pas vraiment?
Pour moi, oui, je suis facilement ce qui se passe, mais je n'ai pas représentatif des jeunes. Et pour cela, c'est très compliqué de parler de comment est-ce qu'on pouvait rendre accessibles ces sujets, ces informations aux autres personnes, parce que pour nous, c'est accessible. Par exemple, pour moi, c'était accessible le Corps européen de solidarité, mais c'est parce que j'ai eu un contact très tôt avec une association qui le faisait, il venait à mon lycée, etc. Et ça, c'est des solutions qui peuvent être mises en place, que les associations se déplacent dans des lycées, dans des collèges, etc., pour promouvoir soit ces projets de l'Union européenne, soit même l'Union européenne et ses initiatives au niveau environnemental. Mais ça reste quand même que, au niveau de la communication, c'est quand même très difficile.
Là-dessus, les réseaux sociaux donc, jouent un rôle important, puisque nous, ça nous permet d'être au courant et tout ça. Mais c'est vrai que si on demande dans la rue aux gens ce qu'ils pensent de l'Union européenne, s'ils sont au courant des mesures mises en place, etc., je pense que pas beaucoup de personnes peuvent être au courant de ce qui se passe et c'est dommage.
Je pense que c'est un peu un constat un peu plus général parce que la plupart des Français, ils ne sauront pas forcément d'informations, ils ne sauront pas forcément décrire les politiques que l'Union européenne fait. Mais pour l'État français, la plupart du temps, ce sera pareil aussi. C'est ce que l'État français est beaucoup plus... il va quand même avoir un impact plus proche dans la vie des personnes, plus direct selon ses politiques.
C'est vrai qu'en effet, peut-être une communication grand public dans les lycées, les collèges, ça peut être intéressant. Et c'est vrai qu'il y a cette histoire d'échelle qui fait qu'il y a moins de proximité et moins de communication. En tout cas, je vous remercie pour toutes ces idées très intéressantes.
Merci.